La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Je m'appelle Patrick Saporito, je fais partie de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Toulouse Métropole. Dans la Bible, deux proches parentes, enceintes toutes les deux, mais de deux générations différentes, vont vivre une complicité unique. Lisons, en ce dimanche après Noël, ce récit que nous connaissons bien dans l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 et pour le moment jusqu'au verset 45. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. La foi personnelle partagée engendre la joie communautaire. C'est ce qui ressort de ce texte. Comment cela? Eh bien, nous verrons premièrement comment Dieu se révèle aux humbles et les visite. Deuxièmement, la foi est agissante et rassemble les humbles. Et troisièmement, eh bien, nous verrons que la foi partagée fait naître la louange à Dieu. Qui sont les intervenants dans ce récit? L'ange Gabriel et deux femmes, Marie, une jeune vierge de la tribu de Juda, de condition modeste malgré le fait qu'elle descende des rois de Juda, et qui est fiancée à Joseph. Et Élisabeth, une parente âgée de Marie, enceinte elle aussi depuis 6 mois. C'est là que commence notre récit. Voyons premièrement comment Dieu se révèle aux humbles et les visite. Dieu prend l'initiative, comme toujours, de visiter les humains, selon son plan, et envoie son ange vers Marie. Il s'agit de l'ange Gabriel, l'ange de l'Éternel. Nous savons que c'est un ange de haut rang qui se tient dans la présence de Dieu, verset 19. Dieu l'avait déjà envoyé vers Zacharie, le mari d'Élisabeth, pour lui annoncer qu'elle sera enceinte de Jean-Baptiste. Voici l'ange Gabriel devant Marie, au clair sur sa mission. Il ne l'a pas adorée, il ne l'a pas priée, il l'a juste saluée joyeusement. Verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Fin de citation. Il est dit, verset 29, que Marie fut troublée par cette salutation et se demandait ce que signifiait cette salutation. En effet, on ne rencontre pas un ange tous les jours, qui plus est un ange de haut rang, et qui prend l'initiative de vous saluer. C'est frappant de voir le rôle des anges pour préparer et annoncer la venue de Jésus. À chaque fois, l'ange a eu la même expression, « Ne crains pas ». Déjà pour Zacharie, en Luc 1, verset 13, pour Joseph, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 20, et pour les bergers, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 10, tous visités par un ou des anges. On ne s'approche pas de Dieu comme ça, parce que Dieu est saint, séparé du mal. Saint est le seul attribut de Dieu qui soit répété trois fois. On peut lire en Ésaïe, chapitre 6, verset 3, « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Vous ne trouverez pas l'expression « juste, juste, juste pour Dieu », même si, bien sûr, Dieu est juste. Et le message de Noël, c'est Dieu qui vient nous visiter et qui nous dit « ne crains pas ». Ce message se veut rassurant. Marie fut troublée, puis rassurée, par l'ange qui l'appelle par son prénom. Verset 30, l'ange lui dit « ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». La visite de l'ange à Marie ne dépend pas du mérite de Marie, mais seulement du choix de Dieu, qui lui a fait grâce. Pour bien insister, l'ange répète le mot « grâce » qui a déjà été dit au verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». 20 citations. La forme passive du grec indique bien que Marie a reçu la grâce de la part de Dieu et ne peut pas être rendue par « pleine de grâce », comme quoi elle serait dispensatrice de grâce. Elle était bénéficiaire d'une grâce toute spéciale, qui faisait d'elle une femme bénie entre les femmes, comme le dira Élisabeth un peu plus loin. Certes, la vie de Marie montrait un amour pour le Seigneur et un désir de lui plaire. Déjà, elle était fiancée tout en étant vierge à ce moment, verset 27. Alors de nos jours, une jeune fille qui veut se garder pure avant le mariage peut passer pour vieux jeu aux yeux du monde, mais a de la valeur aux yeux de Dieu. Je me souviens d'une jeune fille dont la mère veuve allait se remarier et dont les copines ne croyaient pas que sa mère chrétienne et son fiancé attendaient le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Et pourtant, c'était bien le cas. Même si la vie de Marie était exemplaire, elle ne suffit pas à expliquer le choix de Dieu. Sans être parfaite, on le verra un peu plus loin, elle avait une caractéristique qui ne passe pas inaperçue. Et je vous propose de la découvrir ensemble. L'ange lui annonce que, dans son état de virginité, elle enfantera un fils qui sera grand, appelé fils du Très-Haut, qui peut prétendre au trône de David. Joseph, le père adoptif, étant un descendant de David. Ce fils règnera éternellement, c'est-à-dire aussi bien dans le temps que dans le monde infini. Verset 33, rien de moins. Ce sont là les caractéristiques qui sont celles du Messie tant attendu. Le nom de Jésus signifiant « Dieu sauve ». Imaginez la surprise de Marie. Quelle va être sa réaction? Et vous, comment auriez-vous réagi si vous aviez été à sa place devant une nouvelle aussi extraordinaire? Auriez-vous cru instantanément? Sommes-nous étonnés aujourd'hui de ce que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde? Marie était étonnée, et pour cause, elle était vierge. Mais on voit la foi de Marie qui n'a pas demandé de signe. Parce qu'elle est elle-même ce signe. Elle devait connaître cette prophétie messianique écrite quelque 750 ans auparavant. Nous pouvons lire en Ésaïe chapitre 7 verset 14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Fin de citation. Marie demande simplement à l'ange comment cela se fera-t-il. Verset 35 « Pas d'explication humaine. Ça se fera par le Saint-Esprit, qui la couvrira de son ombre, mot qui veut dire aussi nuée. Marie est l'objet d'un acte créateur de la part de Dieu le Père, à l'origine de tout ce qui existe. Le même Saint-Esprit qui a fait naître la lumière et la vie à partir des ténèbres donnera la vie dans le sein de Marie. Une telle réponse demande de croire. Marie a cru, malgré les racontars dont elle risquait d'être l'objet de par une grossesse hors mariage. Malgré aussi ce qu'aurait pu penser Joseph, son fiancé. Mais pas de souci, Dieu s'occupe de tout. Il expliquera à Joseph dans un rêve l'origine de cette grossesse. Dieu parle aux deux dans un couple, et c'est rassurant, n'est-ce pas? Aussi, c'est étonnant que l'histoire ait mis autant l'accent sur Marie et ait mis de côté Joseph, le père adoptif de Jésus qui avait pourtant la responsabilité du foyer. Mais l'accent ne porte pas tant sur la virginité de Marie, D'ailleurs, Marie aura des enfants avec Joseph, après la naissance miraculeuse de Jésus. Au moins 4 fils et des filles. Nous pouvons lire cela en Matthieu, chapitre 13, versets 55 et 56. L'accent porte sur l'enfant qu'elle porte, Jésus, qui est le Fils de Dieu, né de Dieu, saint, sans péché. Même si Marie a cru, eh bien sa foi avait besoin d'être fortifiée. Dieu sait lorsque nous avons besoin d'aide pour croire. Et l'ange va aussi annoncer à Marie que Élisabeth, sa parente âgée qui était stérile, est enceinte depuis 6 mois, pour bien lui montrer que rien n'est impossible à Dieu, verset 37. En entendant cette double annonce extraordinaire, Marie va exprimer sa foi. Elle croit et se soumet, même si elle ne comprend pas tout. Marie n'avait pas tout compris et sera encore dans l'étonnement, aussi bien lorsque les bergers viendront lui raconter ce que l'ange leur a dit, en Luc 2, versets 18 et 19. Elle sera émerveillée en entendant Siméon parler de cet enfant, venu pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Luc 2, versets 32 et 33. Elle sera étonnée lorsqu'elle verra Jésus à 12 ans parler avec les religieux. Luc 2, versets 46 à 50. Marie a eu son cheminement. Elle ne savait pas tout à l'avance, mais elle a cru. En plus, elle aurait pu se vanter d'avoir été choisie pour mettre au monde le Messie. Mais regardez sa réaction au verset 38. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Fin de citation. Littéralement, le mot « servante » veut dire « esclave ». Marie elle-même se disait servante, esclave du Seigneur. Nous y voilà. La qualité qui la rendait apte à recevoir la grâce de Dieu, c'était son humilité. Dans la Bible, nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Fin de citation. La grâce ne se mérite pas. Elle se reçoit dans l'humilité. C'est l'humilité qui lui fait de la place pour la recevoir. Zacharie, Élisabeth, les bergers, Marie et Joseph avaient ceci en commun, qu'ils étaient humbles. Ils craignaient Dieu, et Dieu a pris l'initiative de les visiter. C'est aux humbles que Dieu dit « ne crains pas ». L'humilité permet de recevoir la grâce de Dieu. Grâce qui provoque la foi, et la foi se met en mouvement, elle agit. La foi de Marie va la pousser à se lever, promptement, nous dit le texte, pour aller rendre visite à Élisabeth, qui a elle aussi été l'objet de la grâce divine. On assiste là à un besoin irrésistible de communion fraternelle, besoin qui va être comblé. La soumission à la volonté de Dieu risque de nous étonner et de nous émerveiller. Voyons maintenant le deuxième point, la foi est agissante et rassemble les humbles. Marie, qui a été visitée et saluée par l'ange, va à son tour visiter et saluer Élisabeth. Les salutations, ne sous-estimons pas l'importance des salutations. À notre époque des emails. Encore plus, n'est-ce pas? Ça me fait toujours bizarre de recevoir un mail de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps et qui omet de commencer son mail par une salutation. « Bonjour, comment vas-tu ? » Et regardez ce que peut provoquer une simple salutation fraternelle. Marie n'a pas eu le temps d'expliquer sa situation à Élisabeth qu'aux premières salutations, l'enfant d'Élisabeth tressaille et Élisabeth fut remplie aussi du Saint-Esprit. C'est une véritable réaction en chaîne. Nous lisons au verset 41 « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Fin de citation. C'est le Saint-Esprit qui va pousser Élisabeth à parler à Marie et même à prophétiser sur la bénédiction de Dieu sur Marie et sur son enfant. Versets 42 et 43, je cite « Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Fin de citation. Vous l'avez remarqué, l'humilité répond à l'humilité, elle est contagieuse. L'humilité des deux femmes va rentrer en résonance. Élisabeth réalise la grâce que constitue la visite de Marie qui porte son Seigneur et elle s'humilie devant elle. Élisabeth affirme que l'enfant porté par Marie est son Seigneur personnel, et elle confirme ainsi aux oreilles de Marie la promesse qu'elle a entendue de l'ange. Et aussi la foi répond à la foi. Les deux femmes s'exhortent l'une l'autre. D'une part, Marie est confortée dans sa foi en entendant Élisabeth prophétiser à son sujet. Et d'autre part, la foi de Marie est un sujet de joie pour Élisabeth qui voit la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Les deux femmes s'encouragent par une foi commune. C'est comme si la foi et l'humilité des deux femmes entraient en résonance. C'est le Saint-Esprit, pas Marie, ni Élisabeth, ni son bébé qui est au centre ici. Les deux femmes ont été l'objet de la grâce de Dieu, sont remplies du Saint-Esprit et vivent une communion fraternelle très forte de par les mêmes expériences de la miséricorde de Dieu, la même foi, les mêmes espérances, le même amour. Et pour nous, tous ceux qui avons cru en Jésus comme notre Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit comme signe que nous lui appartenons. Et de même que Marie, remplie du Saint-Esprit, avait besoin de voir Élisabeth, remplie elle aussi du Saint-Esprit, nous avons ce besoin dans l'Église de nous réunir, et ce d'autant plus que cette pandémie a mis de la distance entre nous. À l'exemple de Marie et d'Élisabeth, nous avons besoin dans nos sujets de conversation d'entendre ce que le Seigneur a fait en chacun de nous et pour nous. Le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16, dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Fin de citation. Est-ce que les femmes auraient plus de facilité que nous, les hommes, à partager ensemble? Autrefois, il y avait une grande complicité entre femmes. Elles faisaient la cuisine ensemble, allaient à l'église et vieillissaient ensemble. Quand l'une était enceinte, les autres de la famille, grand-mère, tante, sœur, l'entouraient. Aujourd'hui, c'est devenu plus difficile avec la vie moderne, les déménagements, les familles recomposées et le Covid. De là, un besoin plus grand de se retrouver. Nous pouvons, nous autres maris, essayer de combler tous les besoins de nos épouses, mais on se rend vite compte de nos limites. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ma femme n'attend pas de moi des solutions miracles à tout problème. Ce que j'essayais de trouver, mais elle a juste besoin d'une oreille attentive. Dans notre église, quelques femmes ont pris l'initiative de se réunir en réseau pour prier ensemble. L'initiative chez les hommes est venue, mais plus tardivement. Certaines se sont trouvées des sœurs de prière parce que le besoin est là, besoin d'autant plus mis en évidence par la distanciation causée par la pandémie. C'est quand nous sommes privés de quelque chose et qu'on le retrouve qu'on en apprécie la valeur, n'est-ce pas? Quand c'est redevenu possible de retourner à notre église, j'ai réalisé combien nous avions besoin les uns des autres, de nous voir les uns les autres, même avec le masque, bref, d'être ensemble en église et pas seulement en visio, même si nous sommes reconnaissants de garder le contact par ce moyen-là. Marie et Élisabeth ont partagé ensemble dans l'humilité leur foi qui les a rassemblés. Et le résultat est à la gloire de Dieu. On peut dire la boucle est bouclée. Voyons maintenant le troisième point. La foi partagée fait naître la louange à Dieu. À son tour, Marie va s'humilier devant l'humilité d'Élisabeth dans un cantique qu'elle va adresser à Dieu, son Sauveur, où elle va récapituler tout ce qu'elle a entendu et compris de l'ange et d'Élisabeth dans une prière de louange à Dieu. Nous aussi transformons nos joies en prières. C'est après avoir entendu les paroles d'Élisabeth au verset 45, je cite « Bienheureuse celle qui a cru », fin de citation, que Marie va laisser éclater sa joie dans ce cantique. Son Magnificat que je vous invite à lire dans la suite de notre texte, toujours l'évangile de Luc chapitre 1, à partir du verset 46. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Fin de citation. La soumission à la volonté de Dieu dans la foi non seulement risque de nous étonner, mais nous pousse à louer Dieu ensemble dès qu'on la partage. Marie commence par louer Dieu pour ce qu'il a fait en sa faveur et l'appelle son sauveur, versets 46-47. Marie reste humble, à sa place devant le Seigneur. Elle continue de s'humilier malgré la grâce extraordinaire qui lui a été faite. Elle se nomme une seconde fois servante du Seigneur et parle même de sa bassesse au verset 48, mot qui évoque la culpabilité, l'infériorité. Alors Marie n'était pas parfaite puisqu'elle avait besoin d'un sauveur. Elle n'était pas sans péché, de même que nous tous. Si elle se reconnaissait pécheresse et avait besoin d'un sauveur, elle qui a porté ce sauveur, à plus forte raison, nous aussi, nous avons besoin d'un sauveur. Et il fallait quelqu'un de saint, sans péché, pour nous racheter de nos péchés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus, son Fils, Dieu fait homme. Lui qui n'a commis aucune faute acceptera de mourir sur la croix à cause de nos fautes pour nous en libérer et ressuscitera 3 jours après. Dieu a manifesté sa puissance dans la naissance de cet enfant et sa résurrection. Il a manifesté sa sainteté dans la nature sans péché de cet enfant. Et il a manifesté sa miséricorde dans la mission de cet enfant qui est de sauver tous ceux qui croiraient en lui dans l'humilité. Ce sont ceux qui le craignent qui peuvent bénéficier de sa miséricorde, de son pardon, verset 50. Le cantique de Marie témoigne que si Dieu rassemble les humbles, eh bien il disperse les orgueilleux, verset 51. Il a renvoyé les riches à vide. Dieu ne renvoie à vide que ceux qui sont remplis d'eux-mêmes et qui n'ont pas de place pour recevoir la grâce. Et c'est Dieu qui élève les humbles, pas les hommes. Marie aurait-elle été d'accord que les hommes l'élèvent si haut, elle qui était si humble? Certes, toutes les générations la diront bienheureuse, mais comme une femme bénie par les autres femmes, et non pas comme donnant elle-même des bénédictions. Et souvent, j'ai entendu dire, vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie. Mais c'est là qu'il y a confusion. Nous y croyons parce que justement la Bible en parle. Nous croyons en sa virginité lorsqu'elle est devenue enceinte, parce que la Bible le dit. Nous la croyons bienheureuse pour avoir porté le Sauveur du monde. Mais bienheureuse ne justifie pas de lui rendre un culte. Nous ne l'adorons pas parce que le premier commandement dit bien de n'adorer que Dieu seul. Évangile de Matthieu chapitre 4 verset 10. Marie a eu un commencement, pas Jésus, le Créateur de l'univers. Le péché et la mort sont entrés dans le monde par une femme, Ève. Eh bien, ce sont deux femmes, Élisabeth et Marie, soumises à Dieu, remplies du Saint-Esprit, porteuses de vie, qui ont été utilisées par Dieu dans son plan de salut et qui sont devenues les premières femmes prophètes du Nouveau Testament. Le prénom Élisabeth veut dire « Dieu du serment » et Marie veut dire « leur rébellion ». Dieu a tenu sa promesse d'envoyer le Sauveur, Jésus. Joyeux Noël!
Elle lui a donné la vie, l'a bercée dans ses bras. Elle a chéri son petit, guidé ses premiers pas. Elle l'a aidé à grandir, consolé bien des fois. Elle était fière de lui, bien qu'étonnée parfois. Son enfant venait de Dieu, mais a vécu comme eux, elle le savait. Il était pleinement homme et pleinement Dieu, il le fallait. Je suis ta servante, mon Dieu, qu'il me soit fait comme tu veux. Selon ton plan parfait. Elle a vu quitter la maison et partir pour un ailleurs, dont le seul horizon c'est de toucher les cœurs. Elle vit au son des rumeurs, il enseigne, il guérit, la foule s'éclame et Marie s'en réjouit. Son enfant venait de Dieu, mais a vécu comme eux, elle le savait. Il était pleinement homme et pleinement Dieu, il le fallait. Je suis ta servante, mon Dieu, qu'il me soit fait comme tu veux. Selon ton plan parfait. Mais l'angoisse a saisi son cœur, l'atmosphère a changé. La violence et la fureur contre lui déchaînée. S'est clouée sur une croix qu'elle ne revoit. Son enfant venait de Dieu, mais avec comme elle le savait. Il était pleinement homme et pleinement Dieu, il le fallait. Lui seul était la rançon pour rapprocher l'homme et son Dieu. Selon son plan parfait. Selon son plan parfait.